Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Lectures en liberté, nous reprenons la suite du récit de Barbet d'Aurevilly, Le rideau cramoisi. Je montais chez moi comme un fou. Et quand je me fus un peu refroidi par la réflexion, je me demandais ce que j'allais faire pour nouer bel et bien une intrigue, comme on dit en province, avec une fille si diaboliquement provocante. Je savais à peu près, comme un homme qui n'a pas cherché à le savoir mieux, qu'elle ne quittait jamais sa mère, qu'elle travaillait habituellement près d'elle à la même chiffonnière dans l'embrasure de cette salle à manger qui le servait de salon, qu'elle n'avait pas d'amis en ville qui vint la voir, et qu'elle ne sortait guère que pour aller le dimanche à la messe et aux vêpres avec ses parents. Hein ? Ce n'était pas encourageant, tout cela. Je commençais à me repentir de n'avoir pas un peu plus vécu avec ces deux bonnes gens que j'avais traités sans hauteur, mais avec la politesse détachée et parfois distraite qu'on a pour ceux qui ne sont que d'un intérêt très secondaire dans la vie. Mais je me dis que je ne pouvais modifier mes relations avec eux sans m'exposer à leur révéler ou à leur faire soupçonner ce que je voulais leur cacher. Je n'avais, pour parler secrètement à Mademoiselle Alberte, que les rencontres sur l'escalier quand je montais à ma chambre ou que j'en descendais. Mais sur l'escalier, on pouvait nous voir ou nous entendre. La seule ressource à ma portée dans cette maison si bien réglée et si étroite, où tout le monde se touchait du coude, était d'écrire. Et puisque la main de cette fille hardie savait si bien chercher la mienne par-dessous la table, cette main ne ferait sans doute pas beaucoup de cérémonie pour prendre le billet que je lui donnerais et que j'écrirais. Ce fut le billet de la circonstance, le billet suppliant, impérieux et enivré, d'un homme qui a déjà bu une première gorgée de bonheur et qui en demande une seconde. Seulement pour le remettre, il fallait attendre le dîner du lendemain, et cela me parut long. Mais enfin, il arriva, ce dîner. L'attisante main, dont je sentais le contact sur ma main depuis 24 heures, ne manqua pas de revenir chercher la mienne, comme la veille, par-dessous la table. Mademoiselle Alberte sentit mon billet. Elle le prit très bien, comme je l'avais prévu. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'avec cet air d'infante qui défiait tout par sa hauteur d'indifférence, elle le plongea dans le cœur de son corsage, où elle releva une dentelle repliée d'un petit mouvement sec, et tout cela avec un naturel et une telle prestesse que sa mère, qui les yeux baissés sur ce qu'elle faisait servait le potage, ne s'aperçut de rien, et que son imbécile de père, qui lurait toujours quelque chose en pensant à son violon quand il n'en jouait pas, n'y vit que du feu. « Nous n'y voyons jamais que cela, capitaine !» interrompis-je gaiement, car son histoire me faisait l'effet de tourner un peu vite à une leste aventure de garnison. Mais je ne me doutais pas de ce qui allait suivre. Tenez, pas plus tard que quelques jours, il y avait à l'opéra, dans une loge à côté de la mienne, une femme probablement dans le genre de votre demoiselle Alberte. Elle avait plus de 18 ans, par exemple, mais je vous donne ma parole d'honneur que j'ai vu rarement de femme plus majestueuse de décence. Pendant qu'a duré toute la pièce, elle est restée assise et immobile, comme sur une base de granit. Elle ne s'est retournée ni à droite ni à gauche. Mais sans doute, elle y voyait par les épaules, qu'elle avait très nue et très belle, car il y avait aussi, et dans ma loge à moi, par conséquent derrière nous deux, un jeune homme qui paraissait aussi indifférent qu'elle à tout ce qui n'était pas l'opéra qu'on jouait en ce moment. Je puis certifier que ce jeune homme n'a pas fait une seule des simagrées ordinaires que les hommes font aux femmes dans les endroits publics et qu'on peut appeler des déclarations à distance. Seulement, quand la pièce a été finie et que dans l'espèce de tumulte général des loges qui se vident, la dame s'est levée, droite, dans sa loge, pour agrafer son burnous, je l'ai entendu dire à son mari de la voix la plus conjugalement impérieuse et la plus claire, « Henri, ramassez mon capuchon !» Et alors, par-dessus le dos de Henri, qui s'est précipité la tête en bas, elle a étendu le bras et la main et pris un billet du jeune homme aussi simplement qu'elle eût pris des mains de son mari son éventail ou son bouquet. Lui s'était relevé, le pauvre homme, tenant le capuchon. Un capuchon de satin ponceau, mais moins ponceau que son visage, et qu'il avait au risque d'une apoplexie repêchée sous le petit banc comme il avait pu. Ma foi, après avoir vu cela, je m'en suis allé, pensant qu'au lieu de le rendre à sa femme, il aurait pu tout aussi bien le garder pour lui, ce capuchon, afin de cacher sur sa tête ce qui tout à coup venait d'y pousser. Hein, votre histoire est bonne, dit le vicomte de Brassard assez froidement. Dans un autre moment, peut-être, en aurait-il joui davantage. Mais laissez-moi vous achever la mienne. J'avoue qu'avec une pareille fille, je ne fus pas inquiet deux minutes de la destinée de mon billet. Elle avait beau être pendue à la ceinture de sa mère, elle trouverait bien le moyen de me lire et de me répondre. Je comptais même, pour tout un avenir de conversation par écrit, sur cette petite poste de par-dessous la table que nous venions d'inaugurer lorsque le lendemain, quand j'entrais dans la salle à manger, avec la certitude, très caressée au fond de ma personne, d'avoir, séance tenante, une réponse très catégorique à mon billet de la veille, je crus avoir la berlue en voyant que le couvert avait été changé et que Mademoiselle Albert était placée là où elle aurait dû toujours être entre son père et sa mère. Et pourquoi ce changement ? Que s'était-il donc passé que je ne savais pas ? Le père ou la mère s'était-il douté de quelque chose ? J'avais Mademoiselle Albert en face de moi et je la regardais avec cette intention fixe qui veut être comprise. Il y avait 25 points d'interrogation dans mes yeux. Mais les siens étaient aussi calmes, aussi muets, aussi indifférents qu'à l'ordinaire. Ils me regardaient comme s'ils ne me voyaient pas. Je n'ai jamais vu regard plus impatient que ces longs regards tranquilles qui tombaient sur vous comme sur une chose. Je bouillais de curiosité, de contrariété, d'inquiétude, d'un tas de sentiments agités et déçus. Et je ne comprenais pas comment cette femme si sûre d'elle-même qu'on pouvait croire qu'au lieu de nerfs, elle eut sous la peau fine presque autant de muscles que moi, sembla ne pas oser me faire un signe d'intelligence qui m'avertit, qui me fit penser, qui me dit si vite que ce put être que nous nous entendions, que nous étions connivants et complices dans le même système, que ce fut de l'amour, que ce ne fut même pas de l'amour. C'était à se demander si vraiment c'était bien la femme de la main et du pied sous la table, du billet pris et glissé la veille si naturellement dans son corsage devant ses parents, comme si elle y eût glissé une fleur. Elle en avait tant fait qu'elle ne devait pas être embarrassée de m'envoyer un regard. Mais non, je n'eus rien. Le dîner passa tout entier sans ce regard que je guettais, que j'attendais, que je voulais allumer au mien, et qui ne s'alluma pas. Elle aura trouvé quelque moyen pour me répondre, me disais-je en sortant de la table et en remontant dans ma chambre, ne pensant pas qu'une telle personne pût reculer après s'être si incroyablement avancée. N'admettant pas qu'elle pût rien craindre et rien ménager quand il s'agissait de ses fantaisies, et parbleu, franchement, je ne pouvais pas croire qu'elle n'en eût au moins une pour moi. Si ses parents n'ont pas de soupçons, me disais-je encore, si c'est le hasard qui a fait ce changement de couvert à table, demain, je me retrouverai auprès d'elle. Mais le lendemain, ni les autres jours, je ne fus placé auprès de Mademoiselle Alberte, qui continua d'avoir la même incompréhensible physionomie et le même incroyable ton dégagé pour dire les riens et les choses communes qu'on avait l'habitude de dire à cette table de petits bourgeois. Vous devinez bien que je l'observais comme un homme intéressé à la chose. Elle avait l'air aussi peu contrariée que possible, quand je l'étais horriblement, moi, quand je l'étais jusqu'à la colère, une colère à me fendre en deux et qu'il fallait cacher. Et cet air, qu'elle ne perdait jamais, me mettait encore plus loin d'elle que ce tour de table interposé entre nous. J'étais si violemment exaspéré que je finissais par ne plus craindre de la compromettre en la regardant, en lui appuyant sur ses grands yeux impénétrables et qui restaient glacés, la pesanteur menaçante et enflammée des miens. Était-ce un manège que sa conduite? Était-ce coquetterie? N'était-ce qu'un caprice après un autre caprice ou simplement stupidité? J'ai connu depuis de ces femmes tout d'abord soulèvement de sens, puis après tout stupidité. Si on savait le moment, disait Ninon. Le moment de Ninon était-il déjà passé? Cependant, j'attendais toujours. Quoi? Un mot, un signe, un rien risqué à voix basse en se levant de table dans le bruit des chaises qu'on dérange, et comme cela ne venait pas, je me jetais aux idées folles à tout ce qu'il y avait au monde de plus absurde. Je me fourrais dans la tête qu'avec toutes les impossibilités dont nous étions entourés au logis, elle m'écrirait par la poste. Qu'elle serait assez fine quand elle sortirait avec sa mère pour glisser un billet dans la boîte aux lettres, et sous l'empire de cette idée, je me mangeais le sang régulièrement deux fois par jour, une heure avant que le facteur passât par la maison. Dans cette heure-là, je disais 10 fois à la vieille Olive d'une voix étranglée « Y a-t-il des lettres pour moi, Olive ?» Laquelle me répondait imperturbablement toujours « Non, monsieur, il n'y en a pas. »
Traverse mur et sang. quartier. Et moi qui m'aime la tempête, je suis partout renommé. Mon grand-père était gendarme, mon père était lieutenant. J'ai des frères dans l'avant-garde. Chasseur de renom, nous aurons pour récompense quelques boulets de canon qui nous briseront la tête et nous mettra sans façon par derrière nous. Nous aurons pour récompense quelques boulets de canon qui nous brisera la tête, mort de mauvaise façon.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Le rideau cramoisi, Barbara d'Orvilly. Ah, l'agacement finit par être trop aigu. Le désir trompé devint de la haine. Je me mis à haïr cette Alberte, et par haine de désir trompé, à expliquer sa conduite avec moi par les motifs qui pouvaient le plus me la faire mépriser, car la haine a soif de mépris. Le mépris, c'est son nectar à la haine. « Coquine lâche qui a peur d'une lettre !» me disais-je. Vous le voyez, j'en venais aux gros mots. Je l'insultais dans ma pensée, ne croyant pas en l'insultant la calomnier. Je m'efforçais même de ne plus penser à elle que je criblais des épithètes les plus militaires quand j'en parlais à Louis de Meung, car je lui en parlais. Car l'outrance où elle m'avait jeté avait éteint en moi toute espèce de chevalerie. Et j'avais raconté toute mon aventure à mon brave Louis, qui s'était tire-bouchonné sa longue moustache blonde en m'écoutant et qui m'avait dit, sans se gêner, car nous n'étions pas des moralistes dans le 27e, « Fais comme moi, un clou chasse l'autre. Prends pour maîtresse une petite cousette de la ville et ne pense plus à cette sacrée fille-là. » Mais je ne suivis point le conseil de Louis. Pour cela, j'étais trop piqué au jeu. Si elle avait su que je prenais une maîtresse, j'en aurais peut-être pris une pour lui fouetter le cœur ou la vanité par jalousie. Mais elle ne le saurait pas. Comment pourrait-elle le savoir ? En amenant, si je l'avais fait, une maîtresse chez moi, comme Louis, à son hôtel de la Poste, c'était rompre avec les bonnes gens chez qui j'habitais. Et qui m'aurait immédiatement prié d'aller chercher un autre logement que le leur. Et je ne voulais pas renoncer, si je pouvais n'avoir que cela, à la possibilité de retrouver la main ou le pied de cette damnante Alberte qui, après qu'elle avait osé, restait toujours la grande mademoiselle impassible. « Dis plutôt impossible, » disait Louis, qui se moquait de moi. Un mois tout entier se passa. Et malgré mes résolutions de me montrer aussi oublieux qu'Alberte et aussi indifférent qu'elle, d'opposer marbre à marbre et froideur à froideur, je n'ai vécu plus que de la vie tendue de l'affût. De l'affût que je déteste, même à la chasse. Oui, monsieur, ce ne fut plus qu'affût perpétuel dans mes journées. Affût quand je descendais à dîner, et que j'espérais la trouver seule dans la salle à manger comme la première fois. Affût au dîner où mon regard ajustait de face ou de côté le sien, qu'il rencontrait net et infernalement calme, et qui n'évitait pas plus le mien qu'il n'y répondait. Affût après le dîner, car je restais maintenant un peu après le dîner, voir ces dames reprendre leur ouvrage dans leur embrasure de croisée, guettant si elles ne laisseraient pas tomber quelque chose, son dé, ses ciseaux, un chiffon, que je pourrais ramasser, et en les lui rendant, toucher sa main. Cette main que j'avais maintenant à travers la cervelle. Affût chez moi, quand j'étais remonté dans ma chambre, y croyant toujours entendre le long du corridor ce pied qui avait piétiné sur le mien avec une volonté si absolue. Affût jusque dans l'escalier où je croyais pouvoir la rencontrer et où la vieille olive me surprit un jour à ma grande confusion en sentinelle. Affût à ma fenêtre, cette fenêtre que vous voyez, où je me plantais quand elle devait sortir avec sa mère, et d'où je ne bougeais pas avant qu'elle ne fût rentrée, mais tout cela aussi vainement que le reste. Lorsqu'elle sortait, tortillée dans son châle de jeune fille, un châle à raies rouge et blanche, je n'ai rien oublié, semé de fleurs noires et jaunes sur les deux raies, elle ne retournait pas son torse insolent une seule fois. Et lorsqu'elle rentrait toujours aux côtés de sa mère, elle ne levait ni la tête ni les yeux vers la fenêtre où je l'attendais. Tels étaient les misérables exercices auxquels elle m'avait condamné. Certes, je sais bien que les femmes nous font tous plus ou moins valeter, mais dans ces proportions-là. Le vieux Fa, qui devrait être mort en moi, s'en révolte encore. Ah, je ne pensais plus au bonheur de mon uniforme. Quand j'avais fait le service de la journée, après l'exercice ou la revue, je rentrais vite. Mais non plus pour lire des piles de mémoires ou de romans. Mes seules lectures dans ce temps-là, je n'allais plus chez Louis de Mingue. Je ne touchais plus à mes fleurets. Je n'avais pas la ressource du tabac qui engourdit l'activité quand elle vous dévore, et que vous avez, vous autres jeunes gens qui m'avez suivi dans la vie. On ne fumait pas alors au 27e, si ce n'est entre soldats, au corps de garde, quand on jouait la partie de brisque sur le tambour. Je restais donc oisif de corps, à me ronger. Je ne sais si c'était le cœur, sur ce canapé qui ne me faisait plus le bon froid que j'aimais dans ces 6 pieds carrés de chambre, où je m'agitais comme un lionceau dans sa cage, quand il sent la chair fraîche à côté. Et si c'était ainsi le jour, c'était aussi de même une si grande partie de la nuit. Je me couchais tard, je ne dormais plus. Elle me tenait éveillé, cette Alberte d'enfer, qui me l'avait allumée dans les veines, puis qui s'était éloignée comme l'incendiaire qui ne retourne pas même la tête pour voir son feu flamber derrière lui. Je baissais, comme le voilà ce soir. » Ici, le vicomte passa son gant sur la glace de la voiture placée devant lui pour essuyer la vapeur qui commençait d'y perler. Ce même rideau cramoisi, à cette même fenêtre, qui n'avait pas plus de persiennes qu'elle n'en a maintenant, afin que les voisins, plus curieux en province qu'ailleurs, ne dévisageassent pas le fond de ma chambre. C'était une chambre de ce temps-là, une chambre de l'Empire, parquetée en point de Hongrie, sans tapis, où le bronze plaquait partout le merisier, d'abord en tête de sphinx aux 4 coins du lit et en pattes de lion sous ses 4 pieds, puis sur tous les tiroirs de la commode et du secrétaire encamés de face de lion avec des anneaux de cuivre pendant de leur gueule verdâtre et par lesquels on les tirait quand on voulait les ouvrir. Une table carrée, d'un merisier plus rosâtre que le reste de l'ameublement, à dessus de marbre gris, grillagé de cuivre, était en face du lit. Contre le mur, entre la fenêtre et la porte d'un grand cabinet de toilette. Et vis-à-vis de la cheminée, le grand canapé de maroquin bleu, dont je vous ai déjà tant parlé. À tous les angles de cette chambre d'une grande élévation et d'un large espace, il y avait des encoignures de faux lacs de Chine, et sur l'une d'elles on voyait, mystérieux et blanc, dans le noir du coin, un vieux buste de Niobé d'après l'antique, qui étonnait là, chez ces bourgeois vulgaires. Mais est-ce que cette incompréhensible Alberte n'étonnait pas bien plus ? Les murs lambrissés et peints à l'huile, d'un blanc jaune, n'avaient ni tableau ni gravure. J'y avais seulement mis mes armes, couchées sur de longues pattes-fiches en cuivre doré. Quand j'avais loué cette grande calebasse d'appartement, comme disait élégamment le lieutenant Louis de Meung, qui ne poétisait pas les choses, j'avais fait placer au milieu une grande table ronde, que je couvrais de mes cartes militaires, de mes livres et de mes papiers. C'était mon bureau. J'y écrivais, quand j'avais à écrire. Eh bien, un soir, ou plutôt une nuit, j'avais roulé le canapé auprès de cette grande table et j'y dessinais à la lampe, non pas pour me distraire de l'unique pensée qui me submergeait depuis un mois, mais pour m'y plonger davantage, car c'était la tête de cette énigmatique Alberte que je dessinais. C'était le visage de cette diablesse de femme dont j'étais possédé, comme les dévots disent qu'on l'est du diable. Il était tard. La rue, où passaient chaque nuit deux diligences en sens inverse, comme aujourd'hui, l'une à minuit trois quarts et l'autre à 2h30 du matin, et qui toutes deux s'arrêtaient à l'hôtel de la Poste pour relayer, la rue était silencieuse comme le fond d'un puits. J'aurais entendu voler une mouche, mais si par hasard il y en avait une dans ma chambre, elle devait dormir dans quelque coin de vitre ou dans un des plis cannelés de ce rideau d'une forte étoffe de soie croisée que j'avais ôtée de sa patère et qui tombait devant la fenêtre, perpendiculaire et immobile. Le seul bruit qu'il y eut alors autour de moi dans ce profond et complet silence, c'était moi qui le faisais avec mon crayon et mon estompe. Oui, c'était elle que je dessinais. Et Dieu sait avec quelle caresse de la main et quelle préoccupation enflammée. Tout à coup, sans aucun bruit de serrure qui m'aurait averti, ma porte s'entr'ouvrit en flûtant ce son des portes dont les gonds sont secs et resta à moitié entrebâillée. Comme si elle avait eu peur du son qu'elle avait jeté. Je relevai les yeux, croyant avoir mal fermé cette porte qui d'elle-même et inopinément s'ouvrait en filant ce son plaintif, capable de faire tressaillir dans la nuit ceux qui veillent et réveiller ceux qui dorment. Je me levai de ma table pour aller la fermer. Mais la porte entr'ouverte, s'ouvrit plus grande et très doucement, toujours. Mais en recommençant le son aigre qui traîna comme un gémissement dans la maison silencieuse. Et je vis, quand elle se fut ouverte de toute sa grandeur, Alberte. Alberte, qui malgré les précautions d'une peur qui devait être immense, n'avait pu empêcher cette porte maudite de crier. Voilà, nous retrouverons demain la suite de ce texte de Barbet d'Aurevilly, Le rideau cramoisi. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.